Merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangu. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes. Espace Femmes est diffusé à travers le réseau de 52 radios partenaires dans toutes les régions du Niger. État de la femme après l'accouchement, c'est le thème sur lequel nous allons discuter ce soir. Après l'accouchement, beaucoup de femmes éprouvent des sentiments de colère, de tristesse, d'irritabilité et de doute. Certaines peuvent même avoir des sentiments négatifs au sujet de leur bébé. La découverte de la maternité peut être un moment difficile à vivre pour de nombreuses femmes, au point de ressentir une détresse profonde, persistante, jusqu'à perdre tout intérêt pour ses activités quotidiennes. Alors, quels sont les différents états qu'on peut trouver chez la femme après l'accouchement? Quels sont les symptômes? Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons dans ce studio M. Abou Yahaya, psychiatre, Mme Hamma Kola, sage-femme, et Mme Ibrahim Halimatou, qui est une infirmière. Merci à vous, chers invités, pour votre présence à cette émission. Je suis Rafika Taher pour la modération. À la naissance d'un enfant, la société s'attend à ce qu'une mère soit subjuguée de bonheur. Mais souvent, les mamans sont très nerveuses et certaines repoussent même les bébés. Comment expliquer cet état de fait, M. Abdou?
Alors, bonjour. Donc, je suis médecin psychiatre, chef de service de psychiatrie à l'hôpital national de Niamey. Donc, par rapport à cette situation, les maternités réfèrent au service de psychiatrie des femmes ayant accouché qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, les problèmes de santé mentale que ces femmes peuvent avoir peuvent être du registre d'une anxiété, c'est ce qu'on appelle baby blues. C'est une anxiété qui survient 5 jours après l'accouchement, 5 jours à 8 jours après l'accouchement, où la femme est anxieuse avec tous les symptômes de l'anxiété, de l'insomnie, de la nervosité. Et certaines femmes nous arrivent dans un état de dépression qui dépasse le baby blues, et certaines nous arrivent dans un état psychotique. Donc, état psychotique avec agitation, souvent avec déni de l'enfant, où la femme rejette l'enfant, qu'elle pense que ce n'est pas son enfant, qu'elle pense que c'est un enfant qui lui a été changé. Donc, voilà les états dans lesquels on reçoit les femmes, certaines femmes ayant accouché et qui nous sont référées par les maternités.
Les états de fait.
Les états de fait.
D'accord. Oui. Qu'entend-on par état postpartum?
C'est des maladies qui arrivent au cours d'un accouchement, dont la cause, c'est l'accouchement.
Quels sont les signes et comment se déclenchent-ils?
Donc, les signes, ça dépend de la pathologie dans laquelle on nous amène. Si c'est un baby blues, donc c'est un état anxieux. Un état anxieux, c'est la femme qui a peur, qui est nerveuse, qui est un peu triste. Voilà. Et à côté du baby blues, on peut amener la femme dans un état dépressif. Mm-hmm. Un état dépressif où c'est une femme qui a l'humeur triste, qui pleure, qui a peur d'un danger imminent, ou même une femme qui voudra se suicider. Mm-hmm. Et ça peut aussi être un état psychotique. L'état psychotique, ça peut en prendre toute la psychose. Donc, on peut amener certaines femmes dans un état maniaque où elle est logorique, elle chante, elle danse, elle crie. Et ça peut aussi être un état psychotique où la femme est délirante, avec souvent déni de l'enfant.
Là, elle est déjà dans l'état, mais avant qu'elle ne soit dans l'état, comment est-ce qu'on peut détecter ça, avant que ça ne soit plus profond?
Non, il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir détecter une femme qui va faire une pathologie du postpartum. C'est une pathologie qui se déclenche après l'accouchement.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de prodrome pour dire à cette femme-là, quand elle va accoucher, elle va faire un état du postpartum. Mais seulement, pour une femme qui a déjà fait une pathologie du postpartum, quand elle accouche, on s'attend à ce qu'elle en fasse. Donc, c'est des pathologies qui surviennent après. Donc, quand on fait une fois, donc après tous les accouchements, on est susceptible de faire la même chose.
D'accord.
Et quand on va faire une série de récidives, donc la maladie pouvait évoluer sur son propre compte.
Madame Kola, en tant que sage-femme, que faites-vous pour attirer l'attention des femmes par rapport à cette situation?
Les enfants de la CPM, consultation prénatale. Et des fois, on informe aussi, après l'accouchement, on informe les parents que ça peut arriver. Et puis, après, dès qu'on voit certains signes, quoi. Surtout le fait de repousser l'enfant. Et puis, surveiller comme si la femme est bien consciente, quoi. On informe les parents dès qu'ils voient certains signes, quoi, de nous prévenir. Pour comprendre les dispositions.
D'accord.
Nécessaires.
Ces troubles sont fréquents en général chez quelle catégorie de femmes?
Surtout chez les premiers des fois. Celles qui ont les premiers accouchements.
Madame Ibrahim, depuis combien de temps vous avez commencé à assister les femmes lors de leur accouchement?
Bon, j'ai fait la maternité. J'ai fait presque 10 ans dans la salle d'accouchement. Plus de 10 ans dans la salle d'accouchement. Maintenant, je suis au CSI. Donc, la question est de... Et puis, quand ça fait longtemps que je suis... Avec, je surveillais les femmes après l'accouchement. Je faisais l'accouchement et je les surveille. C'est 6 heures de temps après l'accouchement, on les surveille.
D'accord. Vous avez écouté le psychiatre qui nous a cité les différents états de la femme après l'accouchement. Avez-vous une fois assisté à une femme qui a développé un de ces états?
Oui, il y en a, mais c'est rare. C'est rare.
Comment ça s'était passé?
Bon, c'est une prémie. Elle présente juste une infection puerpérale, on disait. C'est une infection puerpérale qu'elle avait.
Une infection
puerpérale.
Il faut nous expliquer parce que...
Donc c'est après l'accouchement que la femme présente, des, comme disait le psychiatre. Elle a peur, elle refuse de prendre son enfant.
Non, en fait, elle définition d'infection péripérale, là...
C'est juste au niveau de l'utérus, hein. Peut-être on dit que c'est une infection, c'est le qui est un peu infecté, il ne fait pas les toilettes intimes et ça c'est infecté. Et elle refuse même qu'on touche, qu'on lui fasse les toilettes complètes, quoi, intimes. Toilettes intimes. Et ça provoque une infection, mais c'est au niveau du cerveau, je ne sais pas.
L'infection qu'elle a eue, c'est ça qui a... Dans quel état elle s'est... Parce que je vous ai demandé si vous avez déjà assisté à une femme qui a développé un de ces états. Vous avez dit que oui, suite à une infection. Donc, suite à l'infection, quel genre d'état est-ce que ça a provoqué chez la femme? Elle a refusé le bébé, d'allaiter le bébé.
Oui. Comment? Elle a peur même des gens qui viennent la voir. Elle a peur des personnes de la santé, les sages-femmes, les infirmières. Elle refuse de téter son enfant aussi.
D'accord. Madame Kola, est-ce que vous avez aussi été témoin d'une femme qui a développé un de ces cas? Si oui, dites-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait?
La femme refuse carrément d'allaiter l'enfant et même de les voir même. Elle refuse les rejette complètement. Elle ne veut même pas voir l'enfant.
Ça s'était passé devant vous?
Oui. Donc, les parents, il faut qu'ils amènent l'enfant loin d'elle pour qu'elle soit tranquille. Mais elle ne veut même pas les voir, la plus forte raison de l'allaiter.
D'accord. Monsieur Abou, est-ce que ça peut arriver que cette femme-là, dans l'un de ses états, puisse faire du mal à son enfant?
Bien sûr. Parce que dans la conduite à tenir, quand on amène une femme qui fait la psychose et qui a la négation de l'enfant, dans les soins, on prescrit à ce que l'enfant soit éloigné d'elle parce qu'il y a risque d'homicide. Il y a risque à ce qu'elle tue les enfants, parce qu'il y en a qui balancent l'enfant, il y en a qui peuvent tuer l'enfant. Donc, dans les consignes de traitement, c'est d'éloigner l'enfant jusqu'à quand elle va commencer à réclamer l'enfant. Donc c'est un signe de bonne évolution. Ensuite, on lui présente l'enfant.
Est-ce que vous avez des statistiques, par exemple, le nombre de femmes qui ont été admises chez vous et le nombre aussi d'homicides?
Non, malheureusement, non. Il n'y a pas de statistiques de femmes qui ont été admises pour psychose puerpérale. Et
sur une échelle de 10, vous direz combien de femmes ou combien d'homicides?
Non, je n'ai pas encore vu un homicide fait.
Ah,
non,
d'accord.
Mais c'est des risques. Mm-hmm. C'est des risques que ces femmes puissent tuer l'enfant qu'il y a.
Voilà.
D'accord. Donc, moi, j'ai participé, j'ai vu des femmes jeter l'enfant, mais jusqu'à l'homicide, non, je n'ai pas assisté à ça.
D'accord. Là, voilà. J'ai bien compris qu'il n'y a pas de chiffres, mais selon vous, comme je disais, sur une échelle de 10, combien de femmes sont admises chez vous pour état de postpartum de baby blues?
Bon, c'est difficile de répondre par les chiffres, mais c'est assez fréquent que des maternités qu'on nous envoie des femmes dans un état de pathologie du postpartum. Mmh. Voilà, c'est un peu fréquent.
D'accord. Oui. Avant de continuer, je vous propose d'écouter des témoignages.
J'ai vécu ce genre de situation dans le passé avec l'une de mes femmes. Elle me détestait et refusait d'allaiter son enfant, ni même de l'approcher. Je me suis dit qu'elle me haïssait ou même elle détestait son enfant. Ça a commencé à m'énerver. C'est après qu'une vieille femme me disait « c'est dû à la souffrance qu'elle a vécue lors de son accouchement. Ça va passer », disait-elle. Je pense que ce genre de comportement peut engendrer des conséquences. Sinon, on veut que dès la naissance, l'enfant soit allaité avec le premier. C'est une situation qui peut avoir des conséquences.
Les crises peuvent se déclencher dès la grossesse. J'ai vu pour une femme enceinte et une femme qui a accouché. Ma propre fille a eu cette crise 2 semaines après son accouchement. Elle disait qu'elle ne voyait plus et qu'elle avait mal à la tête. Elle pleurait et ne pouvait pas prendre son bébé. Elle a commencé sa crise et je ne comprenais rien. Il a fallu que j'aille appeler une voisine. Elle m'a dit de l'amener à l'hôpital parce que c'est une crise d'éclampsie. Elle avait déjà commencé à mordre sa langue quand on est arrivé à l'hôpital. Il a fallu plus de 3 personnes pour la maîtriser parce qu'il y avait des risques qu'elle se coupe la langue.
Oui, c'est vrai. Nous avons eu à rencontrer beaucoup de cas comme ça. Après l'accouchement, la femme pique des crises, surtout quand elle accouche à domicile. Beaucoup de femmes n'ont pas compris. Elles ne partent pas à la maternité pour accoucher ou pour des consultations prénatales. Le mari ne sait pas ce que c'est un accouchement. La femme aussi, à sa première grossesse, ne comprend pas. Quand elle accouche, elle ne sait pas qu'elle a perdu beaucoup de sang ou comment se porte son bébé. Cela amène des crises chez la femme et on essaie de penser aux mauvais esprits. Le problème, à mon avis, c'est la non-fréquentation des centres de santé à temps. Une femme doit se faire consulter dès le début de la grossesse. C'est la meilleure façon. Certaines ne le font pas. Mais aujourd'hui, il y a des volontaires qui passent de porte en porte pour sensibiliser la population. Et nous avons commencé à avoir des résultats. Beaucoup de gens ont compris la nécessité d'aller vers les centres de santé.
C'est un esprit qui lui a fait ça il y a quelque temps. Elle a accouché sans problème. En plus, avant, on ne partait pas à la maternité pour accoucher, sauf en cas de complications, où on prenait des charrettes pour s'y rendre. Une nuit, quelques jours après son accouchement, elle a eu peur alors qu'elle faisait ses besoins. Elle est tombée malade et refusait même d'allaiter sa fille. On a cherché de l'aide, mais aujourd'hui, elle va mieux.
J'ai vécu cette situation avec ma fille. Après son accouchement, elle refusait d'allaiter son enfant. Je ne comprenais rien. Les gens me disaient qu'elle était possédée. C'est une situation qui désoriente. Son mari parlait de ce qui se passe, mais sa belle-mère refuse de voir la réalité. Et ça compliquait les choses. Pour le mari, il voit une obligation de faire des dépenses inutiles sur cette affaire de possession.
Voilà, monsieur Abou. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces témoignages?
Bon, c'est des témoignages qui expliquent culturellement la maladie. Parce que culturellement, on pense à la possession, on pense au fait de ne pas avoir accouché dans une maternité. Mais scientifiquement, tout ça là n'est pas, ne cadre pas avec la réalité, parce que ce n'est pas histoire d'esprit ou de possession, ce n'est pas lié au manque d'avoir accouché dans une maternité. Donc c'est la cause est autre. La cause est autre, donc c'est, il y a souvent une prédisposition à faire la maladie, ou souvent il n'y a pas de raison autre que l'accouchement.
D'accord. Voilà. Madame Ibrahim, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces témoignages?
Je peux dire que c'est, certains disent la réalité, parce que je pense que c'est un sort jeté, ou bien les génies, ou bien quelque chose là. Mais une fois que la femme est très tôt se faire consulter à la maternité ou au centre de santé pour se faire consulter, prendre l'attention, faire les examens, on peut éviter certaines choses.
D'accord. Dans un des témoignages, on disait que cet état peut survenir bien avant l'accouchement.
Oui.
Expliquez-nous cela.
C'est au niveau de la CPN qu'il faut. La femme doit aller se faire consulter très tôt sa grossesse. À partir de 3 mois, elle doit aller se voir la sage-femme pour la prendre en charge, voir la tension, le sucre dans les urines.
D'accord.
Elle doit se faire consulter avec la sage-femme chaque fois, à chaque moment.
D'accord. Et vous, Madame Kola, qu'avez-vous à dire sur ces témoignages?
Je pense que les femmes n'ont pas été bien sensibilisées. Donc, il manque de sensibilisation sur certaines maladies, surtout la crise d'éclampsie qu'ils disent là. Donc, la CPN doit faire certains examens.
D'accord.
C'est ça. Et puis, on doit référer la femme à temps dans ces conditions-là.
Je reviens vers vous, docteur Abou, concernant le témoignage où elle dit que ces états peuvent survenir bien avant l'accouchement. Expliquez-nous cela. Comment est-ce qu'elle peut avoir un sentiment de rejet de son bébé, par exemple, bien avant qu'il ne soit né?
Non. Quand il s'agit de pathologie et de la post-puerpéralité, ça ne survient qu'après l'accouchement. Il n'y a pas de puerpéralité avant l'accouchement.
D'accord.
Donc, quand on parle de puerpéralité, ça fait suite à l'accouchement, c'est après la délivrance.
Madame Kola, est-ce que les femmes développent ces états après chaque accouchement? Est-ce que c'est après, une fois qu'elles aient fait ça la première fois, est-ce que c'est continuel? C'est après chaque accouchement?
Oui, des fois, elles disent que ça récidive après chaque accouchement, donc ça revient d'autres.
D'accord. Et qu'est-ce qui est à la base de ça?
C'est quand elles ont subi...
Le fait que ça soit continuel. Dès la première fois, il n'y a pas un traitement qui a été fait. Pourquoi ça revient à chaque accouchement?
Après chaque accouchement. C'est pourquoi, peut-être. C'est pourquoi ça revient. Peut-être. Ça revient psychologique ou bien?
Bon, si c'est psychologique, je reviens alors vers vous, docteur. Pourquoi cette répétition après? S'il y a vraiment des répétitions, ou bien c'est une seule fois que la femme vit ça?
Non, une femme qui fait une psychose puerpérale a toutes les chances de refaire la même chose à tous les accouchements qui vont suivre. Mais on n'a pas de cause précise pour dire voilà la raison.
Voilà la raison. Si toutefois ça persiste, quelles sont les conséquences?
Si toutefois ça persiste...
Oui, l'état postpartum d'une femme, si... on n'arrive pas à avoir de solution, quelles sont les conséquences qui peuvent advenir?
Non, les conséquences, c'est qu'elle rentre dans la chronicité, dans une pathologie évoluant sur son propre compte. Donc on va quitter la perpétuité pour un état psychotique évoluant sur son propre compte. Donc si c'est la psychose puérpérale, généralement une hospitalisation d'une semaine à 8 jours, on a un retour à la normale.
D'accord, il n'y a pas eu de cas où ça a été continuel et que...
Si, il y a des cas où ça a été continuel, où c'est la maladie qui évolue sur son propre compte. Et là, c'est un état psychotique qui continue sur son propre compte. Donc on l'appellera plus perpéralité, on va appeler la femme une femme psychotique.
Donc elle peut être mentalement déficiente suite à ça ou bien...
Oui, ça veut dire quand on dit qu'elle rentre dans la chronicité, ça veut dire qu'elle rentre, elle devient malade mentale définitive.
Mm-hmm.
En dehors des accouchements.
D'accord. Comment se fait alors la surveillance de ces cas à votre niveau, Madame Ibrahim?
Donc, au niveau du centre de santé, si on amène la femme après 5 jours ou bien 6 jours, elle présente les manifestations, la mise sous antibiothérapie. On fait des tranquillisants pour la faire dormir. C'est les antibiotiques qu'on met.
D'accord. Est-ce que en cas de crise, par exemple, vous arrivez quand même à les maîtriser ou bien c'est...
Non. Si on arrive en traite pendant au moins 72 heures, si ça ne va pas, on réfère au niveau du centre, au niveau du centre supérieur. Mm-hmm. Ou à la maternité centrale ou à l'hôpital national psychiatrique.
D'accord. Quel genre de conseils vous prodiguez à la mère dans ces genres de situations, Madame Kola?
Les mères qui
sont dans cette situation, quel genre de conseils est-ce que vous leur donnez?
Avant ou après?
Avant, après, au moment? Peut-être les mères à venir aussi. Quel genre de conseils est-ce que vous donnez pour les femmes en général pour éviter ces genres de situations?
La femme qui a déjà qui la crise, elle, des fois, même si elle lui donne des conseils, il faut donner les conseils aux parents.
Aux parents. Et celles qui ne sont pas encore dans la situation.
Ça, on les prévient. Surtout pour les crises. Là. On les prévient de les faire leurs examens. Tous les examens. Parce qu'il y a des femmes, même si on donne des examens, elles ne font pas ça. Par exemple, la crise d'éclampsie, là. Donc, il faut faire les examens du laboratoire, albumine, sucre, surtout, et la tension.
D'accord. Souvent, les mamans victimes refusent même d'allaiter les bébés. Face à ces cas, qu'est-ce que vous faites si elles refusent d'allaiter les bébés?
On les met sous traitement. Les familles qui refusent, par exemple, on leur donne des conseils et puis on fait des traitements pour ça.
Et le bébé?
Les bébés, des fois, donc on est obligé de... Il y a certains parents qui trouvent une parenté comme ça pour l'allaiter jusqu'à ce que la femme reprenne ses états.
Madame Ibrahim, qu'avez-vous à dire sur cette question?
Quand la femme refuse d'allaiter son enfant, nous, on envoie, on réfère parfois à la maternité centrale néonate. Pour refus d'allaitement. Là, il y a le pédiatre qui va s'en charger de ça. Parce qu'une mère qui refuse d'allaiter son enfant, l'enfant est là sans. Il va piquer une hypoglycémie. Donc, il faut faire quelque chose.
D'accord. Référer donc, l'enfant. Vous référez l'enfant à votre niveau et il n'y a rien qui est fait dans votre CSI?
Non, dans notre CSI, on peut faire les. Comment dire? Parce que la maman refuse de prendre l'enfant. Et l'enfant, d'accord. On ne doit pas nous donner de l'eau aussi, il faut aussi boire. Donc on réfère au service néonate.
D'accord. Et vous, docteur Abou, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question, une mère qui refuse d'allaiter son bébé?
Mais une mère qui refuse d'allaiter son bébé, il n'y a pas d'autre solution que l'allaitement artificiel. On prescrit l'allaitement artificiel. À la famille qui prend l'enfant, on lui fait l'allaitement artificiel ou lait artificiel. C'est tout ce qu'il y a pour l'enfant.
D'accord. Et pour Madame Kola, je viens vers vous. Les femmes qui se délaissent, qui n'ont plus envie de prendre soin d'elles-mêmes, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
On leur donne des conseils pour ça.
Qu'est-ce que vous leur dites? Les conseils, là, ça apporte sur quoi?
Qui se délaissent.
Oui, qui ne prennent plus soin d'elles à plus forte raison de l'enfant. Quels sont les conseils que vous leur donnez?
Oui, on leur donne des conseils, par exemple, surtout si c'est une crise puerpérale, c'est en faisant les traitements et en leur donnant des conseils.
D'accord. Mm-hmm. Et vous, Madame Ibrahim?
Bon, ce genre de femme, comme c'est une infection, elle va en prendre faire les soins intimes. On lui conseille de faire les soins intimes.
Donc, c'est une infection qui provoque ça. Dans tous les cas, c'est une infection qui provoque ça.
Il y a certaines crises qui c'est l'infection préparée qui provoque ça.
D'accord. Quels sont les conseils que vous leur prodiguez?
Donc, elle va prendre, comme vous le dites, de prendre soin d'elle. Et donc, faut faire les toilettes intimes. De suivre les traitements qu'on les dit, les antibiothérapies, c'est au niveau du CES, au niveau du centre, on fait, c'est à la maison, elle continue la voie orale.
D'accord. Donc, est-il nécessaire d'administrer vraiment un traitement? Par exemple, quand on dans les zones rurales, mm-hmm. où beaucoup de femmes n'ont pas accès au centre de santé intégrée, mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'il y a vraiment, s'il y a vraiment une nécessité d'intégrer un traitement ou bien juste le fait que la femme se repose à la maison, est-ce que ça peut venir à bout de cette situation?
Non, il faut qu'on l'amène au centre de santé.
D'accord. Mm. Obligatoirement.
C'est obligé.
Docteur Abou.
À la maison,
il n'y a pas de solution que le traitement psychiatrique pour une femme qui fait une psychose puerpérale.
D'accord. Donc, la solution, c'est le traitement psychiatrique pour venir à bout de ces situations.
Voilà, la solution passe par le traitement psychiatrique pour venir à bout de la pathologie.
D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons écouter le portrait de Saratou Abdou sur cette thématique.
Native de Tessawa, de la région de Maradi, Saratou Abdou est grand-mère âgée de 48 ans. Après son mariage, elle s'installe à Agadez où elle faisait son petit commerce à la devanture du CSI Centre. Plus tard, elle embrasse le métier de matrone dans le même CSI. Elle nous raconte son parcours.
Je suis arrivée à Agadez après mon mariage. Et grâce à Dieu, j'ai eu ce boulot à la maternité. Ça fait 5 ans et 8 mois que j'exerce. Au début, je venais juste pour faire mon petit commerce. Et quand ils ont voulu recruter une matrone, ils ont pensé à moi, vu que j'étais très engagée. Déjà, je les aidais beaucoup de temps à autre quand elle était débordée. Ils ont donc déduit que je pouvais bien faire ce boulot. Voilà pourquoi ils m'ont embauchée.
Du début de ta carrière à aujourd'hui, quels sont les changements que tu as vécus?
Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. À travers ce boulot, je subviens à mes besoins. J'aide mes proches. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie énormément mes supérieurs. Je remercie aussi les sages-femmes avec lesquelles je travaille. Et nous avons beaucoup de respect les unes pour les autres.
Saratou, dites-nous, c'est quoi la tâche que doit remplir la matrone?
Le boulot des matrones consiste à accueillir les femmes qui viennent accoucher, à prêter les tables d'accouchement, appeler les sages-femmes pour qu'elles viennent consulter les patientes et assister la sage-femme lors de l'accouchement, à lui passer le matériel, les morceaux d'épagne et autres. Et après l'accouchement, on s'occupe de remettre l'enfant aux accompagnantes de la patiente. Voilà comment se passe notre boulot.
De la vie, chaque travail a son lot de difficultés. Quelles sont celles auxquelles tu es confrontée?
Non, pas une seule fois. Nous sommes bien traités partout. Même les inconnus nous respectent. Parce que dans la plupart des cas, nous ne retenons même pas les visages des femmes après l'accouchement. Mais elles se souviennent de nous et de l'aide que nous leur avons apportée. D'autres nous trouvent même à la maison avec des petits cadeaux.
Les parents, amis et connaissances de Saratou saluent beaucoup ses efforts et surtout sa générosité envers les siens.
Dieu merci, elle est vraiment exceptionnelle. Toute personne qui vient en consultation est très bien accueillie. Nous qui sommes ses parents, n'en parlons même pas. Même si tu n'as pas de relation avec elle, elle s'occupe bien de toi.
Amina Mamoudou, la collègue de travail de Saratou, apprécie sa bravoure et surtout son esprit de travail d'équipe.
On est content du travail que Sarot fait. Elle a été embauchée dernièrement. Elle sait bien faire son travail. Si les femmes arrivent, elle est la première à les accueillir. Elle les place sur les lits et elle part chercher la sage-femme. Jusque-là, on n'a pas de problème avec elle.
Sarot Abdou jouit beaucoup de l'estime de ses supérieurs. Hawa raconte.
Notre relation avec Sarah tout se passe très bien. Elle fait très bien son travail. Elle s'occupe des femmes, de l'hygiène du matériel de travail, des salles d'accouchement. Elle fait vraiment du bon travail.
Les femmes d'Agadez sont satisfaites du travail de Sarah Abdou, comme nous le confirme la vieille geisha Ahmed qui a accompagné sa nièce pour les consultations au sein du CSI.
Sarot, je la connais, c'est une bonne personne. Elle respecte les gens. Si j'amène ma petite fille, elle ne sait même pas où nous mettre. Et pas qu'à moi seule, elle est accueillante envers tout le monde. En plus de ça, elle est propre et elle sait bien faire son travail.
En sa qualité de matrone, Sarot Abdou exhorte ses autres collègues à plus d'attention et de vigilance sur les femmes qui viennent pour accoucher, car la vie humaine est sacrée.
Voilà, c'était le portrait de Saratou Abdou qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, Madame Ibrahim?
C'est exemplaire. Elle a été très, très bien dans son travail. C'est ça qu'on veut dans le travail de la santé. Être patient, accueillant. Il faut être aimable à tout. Surtout sur la femme et ses accompagnantes. C'est très important. La femme enceinte, la femme en travail, elle a besoin d'aide. D'accord. Et ses accompagnants aussi. Il faut les respecter.
Et vous, Madame Koula?
Moi aussi, je trouve que c'était une bonne fille du sol, en tout cas. Mm-hmm. Elle fait bien son travail.
D'accord. Docteur Abou?
Bon, comme on l'a décrit, il y a des témoignages de gens qu'elle a servi. Je ne peux que louer son professionnalisme. C'est comme ça qu'on veut qu'une matrone agisse, elle agit comme il se doit. Les gens sont contents de son travail et il le prouve. Voilà, donc je ne peux que dire elle fait bien son travail.
D'accord. Quelles sont vos propositions ou appels à l'endroit des femmes et leur entourage face à cette situation d'état de postpartum?
Bon, l'état de postpartum, quand on le reçoit, on fait la psychothérapie du couple. On explique ce qui s'est passé à la femme et à son mari. Et surtout, on attire leur attention du fait qu'au prochain accouchement, elle va faire la même chose. Donc, à eux de choisir s'il faut qu'ils continuent à procréer et qu'elle continue à faire des crises ou s'ils veulent arrêter. S'ils veulent continuer à procréer, qu'ils sachent qu'à chaque accouchement, elle va faire. Donc, dans ce cas, on peut faire le préventif. Quand elle est enceinte ou à l'approche de l'accouchement, on peut mettre déjà le traitement en route, ce qui va éviter qu'elle ne fasse. Ou il y en a qui comprennent, qui disent « Ah, si c'est l'accouchement qui est la cause, alors Dieu merci, on va sur ça aux accouchements. Voilà, c'est la solution. »
Et vos propositions, qu'est-ce que vous proposez?
Non, on ne leur propose rien.
D'accord.
On explique, voilà l'état de fait, et voilà que à chaque accouchement, il y a des risques qu'elle fasse la même chose, et qu'à un certain rythme de répétition. Elle va s'installer dans la maladie définitivement. Donc, c'est à eux de tirer la conclusion.
D'accord.
On ne leur dit pas ce qu'il faut faire.
Mm-hmm. Madame Ibrahim, est-ce qu'il y a des propositions ou appels que vous lancez à l'endroit des femmes et leur entourage face à cette situation?
Comme disait docteur, c'est la même chose. Hein. On va expliquer aux parents, aux maris de se patienter parce que c'est une maladie qu'on... C'est lui qui a amené ça. Donc, on ne fait rien. Dans le cas, se patienter avec la malade même en question. Quand on est malade, on a besoin d'aide, de l'encourager, de la garder, de se faire patienter, de la calmer dans ses crises, quoi.
Et vous, Madame Kola, vos propositions et appels à lancer envers ces femmes et leur entourage?
Donc, si c'est une crise qui est récidive, donc on prévient les parents et l'entourage.
Elle est déjà écartée, on ne lui dit rien. C'est juste aux parents qu'on...
De la sensibiliser aussi. Il faut la sensibiliser en même temps que les parents.
D'accord. Donc, les états post-partum chez la femme peuvent se déclencher environ 8 jours après l'accouchement, selon nos invités, et que plusieurs éléments peuvent être à l'origine. Ce sont des situations qui peuvent durer à long ou court terme. Et pour éviter ces genres de situations, les consultations prénatales sont à primer et que les traitements restent le seul recours pour venir à bout de ces états post-partum. C'est ici que prend fin ce forum Espace Femmes sous le thème État de la femme après l'accouchement. Nous étions en compagnie de M. Abou Yahaya, psychiatre, de Mme Hamma Kola, sage-femme, et de Mme Ibrahim Halimatou, infirmière. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Je suis Rafika Taher à la présentation et Mustapha Ayouba à la technique. Place maintenant à notre rubrique Affairage. Bonne écoute et au revoir. Ma journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même? Ah, enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule? Je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Ah, je vais me rafraîchir un peu.
Tu vas où? Reviens.
Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose?
Tu m'étonnes vraiment.
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore?
Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête? Tu penses que c'est normal?
Même si j'ai oublié les vigiles, les éteindront à ma place.
Tu vois ce genre de comportement? Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place? C'est le vigile qui les a utilisés?
Hey, lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur.
Tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies, parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés. Il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur? Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère.
Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès.
Une ou deux fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse.
Oui, paresseuse.
Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis-à-vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci.
Hey, je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour faire le travail, non?
On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête d'être têtu comme ça.
D'accord, je t'écoute.
Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention. Tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau, hein?
Toi, ça peut aller jusque-là? C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, voilà.
Aïma, c'est trop. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne le commence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant.
D'accord, Sœurette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne image de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils.